Je vais y aller.
Nous sommes deux fumeurs d'opium, chacun dans son nuage. Sans rien voir au dehors, seuls, sans nous comprendre jamais, nous fumons. Visages agonisants dans un miroir. Nous sommes une image glacée à laquelle le temps donne l'illusion du mouvement. Un cristal de neige glissant sur une pelote de givre dont personne ne perçoit la complexité des enchevêtrements. Je suis cette goutte d'eau condensée sur la vitre de mon salon. Une perle liquide qui roule et ne sait rien de la vapeur qui l'a engendrée, ni des atomes qui la composent encore, mais qui, bientôt, serviront à d'autres molécules, à d'autres corps. Aux nuages pesant lourd surviennent ce soir.
Oui, je crois que bon, un jour peut-être je n'écrirai pas, mais je sais que je lirai toujours à moins de ne plus pouvoir voir.
Merci beaucoup. Mathieu Sénard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour la radio de l'ENS Transistor.
Je vous en prie.
Vous êtes à Lyon pour les Assises internationales du roman.
Tout à fait.
Et nous venons jusqu'à vous pour que vous nous parliez de votre roman Boussole qui vous a valu le prix Goncourt. Alors, est-ce que vous pouvez, Mathias Sénard, nous résumer avec vos mots cet ouvrage, Boussole ?
Alors, c'est pas simple à résumer, mais je vais essayer. Disons que ça se passe en une nuit. Une nuit à Vienne. On est dans la tête et dans l'appartement d'un musicologue viennois qui s'appelle Franz Ritter. Et qui vient de recevoir le matin même un courrier d'une jeune femme qui s'appelle Sarah. Un article scientifique, un tiré à part, à propos d'un endroit du nord de Bornéo qui s'appelle le Sarawak. Et il est très surpris de recevoir cet article sans autre précision. Et à partir de là, il va un peu reconstituer justement toute son histoire avec cette Sarah. Il va penser à elle toute la nuit. Et au-delà d'elle, il va reconstruire un peu son monde artistique et intellectuel qui a beaucoup à voir avec les relations entre l'Est et l'Ouest, entre l'Orient et l'Occident au 19e et au 20e siècle.
Donc comme vous le dites, dans cet ouvrage, en fait, on ne sort pas de l'appartement de Franz Ritter, on ne sort même pas de son esprit finalement.
Non, pas du tout.
Et pourtant, par les récits de voyage, nous partons très loin. Et le roman joue d'ailleurs sans cesse sur cette étendue proximité entre ici et là-bas, et surtout ces amoureux d'un Orient qu'il porte en lui. Ma première question, Mathias Sénard, se portera sur le thème de la fêlure, qui la fracture interne de l'autre en soi, dont tous les personnages font l'expérience. À commencer par Franz, qui, comme vous le dites, vit sa vie en ne pensant qu'à une autre, Sarah. Ce thème revient continuellement dans le roman, à tel point qu'il en donne même le titre, finalement, Boussole, c'est-à-dire que c'est cet objet qui est là et qui pointe ailleurs. Donc ma première question est la suivante, est-ce que l'amour pour l'Orient, vous avez beaucoup voyagé, vous avez appris le perse, l'arabe, est-ce que l'amour pour l'Orient se vit toujours comme une déchirure interne ?
Non, pas forcément une déchirure interne, en tout cas une construction de soi par l'altérité, c'est-à-dire que je pense qu'on on se construit toujours avec et par rapport à un autre, à un autrui, à une différence. Et dans mon cas, par exemple, ça a été effectivement le long apprentissage de l'arabe, du persan, les années que j'ai passées là-bas. Et très certainement, cette idée d'altérité, elle a très longtemps été appliquée justement à l'Orient par les voyageurs, les orientalistes. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est justement de remettre en perspective un peu tout cela, que ce soit sur le plan individuel, de dire finalement qu'est-ce qu'il y a d'autre en moi. Et puis sur le plan collectif, de voir quels ont été justement nos rapports dans cette grande altérité qui est, dans notre imaginaire en tout cas, le prochain Moyen-Orient.
Et justement, pourquoi avoir appris le perse, pourquoi avoir appris l'arabe?
Moi, c'était un peu un hasard. En fait, évidemment, au départ, il y avait toujours une idée un peu d'un exotisme et d'un ailleurs. Adolescent, je rêvais beaucoup de voyages, de lointains. Et puis, j'ai découvert l'existence de l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, dont la brochure était en soi déjà un voyage gigantesque, puisque on pouvait apprendre des dizaines de langues, depuis le tagalog des lointaines Philippines jusqu'aux langues de l'ex-Yougoslavie, en passant par une dizaine de langues indiennes, le vietnamien, le chinois, et donc voilà, je me suis inscrit là et j'ai commencé par faire de l'arabe et du persan.
D'accord. Donc cette fêlure dont nous parlions, vous en faites tout un style, en fait presque un art poétique, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas à la lecture de votre livre. Vous parlez d'une perte de soi dans la création au contact de l'altérité. Mm-hmm. Vous mélangez donc le style très académique, parfois même le thésard, avec parfois des passages très familiers. Et vous commencez votre ouvrage par ces passages que vous nous avez lus, avec un style presque qui fait penser à un sutra, et ça finit sur Vienne et le vieux chien du voisin. Est-ce que cette fêlure en fait est essentielle à l'inspiration et au style littéraire? Est-ce que pour pouvoir écrire, il faut être français à Barcelone, il faut se sentir étranger là où on est?
Je sais pas, non, je suis pas sûr. Enfin, il y a beaucoup de façons d'écrire et je suis pas sûr que ce soit une question de s'il faut ou pas. Ce qui est vrai que moi, là, dans mon cas, oui, je suis français, je vis à Barcelone. Il y a peut-être effectivement cette distance de l'étranger qui me nourrit, mais c'est quelque chose de très personnel, qui est pas du tout une nécessité pour l'écriture. En tout cas, c'est vrai que ces contrastes que vous avez relevés. Moi, il me plaisent beaucoup. C'est justement des choses qui m'inspirent, entre guillemets. C'est justement comment est-ce qu'on peut passer d'une chose à l'autre. Et le livre se construit finalement par glissement dans le discours de France, par aussi un très très grand nombre de types de textes différents. C'est aussi il y a des morceaux qui pourraient être effectivement des articles scientifiques, d'autres qui sont plutôt des éléments de divulgation, d'autres qui sont beaucoup plus narratifs, d'autres qui sont poétiques. Donc voilà, on passe un peu par tous ces types de textes et qui est, à mon avis, la grande force du roman au XXIe siècle, c'est de pouvoir un peu tout inclure et tout admettre. Et depuis des images, en passant par de la poésie, des textes scientifiques, tout est possible. Et on peut passer assez naturellement de l'un à l'autre.
Oui. Alors, pour revenir la dernière fois sur cette idée de fêlure qui parcourt votre roman, on a l'impression pourtant qu'elle n'est pas seulement un mal, en fait. Elle est aussi le moyen pour certains personnages d'atteindre réellement cet autre qu'est l'Orient. Quand on parcourt un peu les textes des savants et mystiques orientaux, et votre livre nous aide à le faire, on se rend compte que beaucoup de choses peuvent se résumer ainsi, c'est-à-dire les frontières, les limites entre les choses que nous voyons n'existent pas. Nous croyons être entiers, intègres, un. Et pourtant, nous sommes parcourus par les contradictions. Et vos personnages sont parcourus par des contradictions. Par exemple, Sarah s'enfonce de plus en plus dans l'Orient, jusqu'en Inde, même jusqu'au Vietnam. De plus en plus loin. L'ami archéologue Bilger, lui, s'enfonce de plus en plus dans la folie. Et Faugier, dans les femmes et la drogue. Et ma question est la suivante, c'est qu'on ne sait pas vraiment... Est-ce que les personnages vont vers plus de sagesse ou vers plus de folie dans votre...
Ben, on sait pas, justement, c'est un peu... Il y a un peu les deux, c'est-à-dire que parfois, c'est pas toujours facile d'être parmi les sages, quoi. Et ça demande d'abord une grande volonté, un grand travail, un grand équilibre. Et malheureusement, tout le monde n'atteint pas ça. Et c'est vrai que beaucoup, en fait, dans cette quête parfois mystique de, d'un Orient absolu, d'une sagesse théosophique, beaucoup sont tombés dans l'illusion la plus pure et une forme de folie. Après, évidemment, dans un roman, on a tendance à outrer un peu les personnages pour qu'ils en deviennent un peu des caractéristiques, un peu qui fonctionnent. Mais c'est vrai que là, j'ai rencontré effectivement plusieurs personnes qui ont eu un peu le destin de des gens dont je parle. Et c'est sûr que oui, il y a une espèce parfois de l'impression de perte de soi aussi dans le dans l'altérité, dans l'exotisme.
Et justement, on ne sait pas finalement si ces personnages se trouvent ou se perdent, se fuient complètement, est-ce qu'ils vont vers la folie ou est-ce qu'ils se fuient ou est-ce qu'ils se retrouvent
Oui, non, on ne sait pas. Non. Effectivement, ça c'est toujours le mystère des êtres. On ne sait pas trop si le. Enfin, je pense que Sarah, elle représente plutôt un destin qui évite justement ce genre de d'illusion. Malgré toutes les possibilités, on aperçoit qu'on voit qu'elle aurait pu tomber dans ceci ou dans cela. Elle reste justement dans la voie du milieu, elle plutôt dans la voie dans la. Là, cette voie qu'elle découvre et qu'elle essaye tant bien que mal de suivre. Et Franz, lui, il a une espèce de folie plus douce, qu'on pourrait appeler mélancolie. Bon, apparemment, il est un peu aussi hypochondriaque, des choses comme ça. Mais on n'en est pas au point de ces deux pôles, l'un dans la folie du plaisir, qui est Faugier, et l'autre dans une espèce de mégalomanie dévorante, qui est ce Bilger. Donc ça, ce sont... effectivement un peu des différents types de réagir à la grande force de transformation de l'altérité.
Alors ce livre est parcouru par des récits de musiciens, d'écrivains, de personnages importants de l'histoire culturelle européenne. Et un point commun en fait, tous ces personnages-là, c'est qu'ils sont tous devenus presque fous, dévorés par l'Orient en eux. Tout comme les personnages du roman, comme nous venons de le dire. Et donc vous relatez les plus connus comme Nietzsche, Rimbaud, Chopin, aux plus oubliés comme Germain Nouveau.
Oui, Germain Nouveau, c'est un
peu... Est-ce que vous voulez écrire une autre histoire culturelle? Est-ce que vous voulez rendre hommage aux oubliés, à ceux qui sont là qu'indirectement en fait, et qui ont influencé les autres, mais qui ne sont pas là vraiment par leur nom?
Bon, les oubliés, c'est relatif, hein, parce que bon, Germain Nouveau, bon, il a été viré de la Pléiade, le pauvre, mais il reste quand même, il y a quand même été, donc bon, on peut pas. Mais non, il y a peut-être pas forcément faire œuvre de justice, mais en remettant en lumière des gens dont on pourrait penser qu'ils seraient oubliés, mais c'est aussi de donner à voir un peu la diversité de ces gens-là. C'est-à-dire que j'ai choisi les personnages historiques, disons. Pour qu'il donne une espèce de panoplie de ce qu'a été différents types de cette aventure, quoi. Germain Nouveau, c'est typiquement à la fois la rencontre entre l'Orient, la volonté d'habiter à Beyrouth, à Alger, et puis le mysticisme chrétien très fort, les lieux saints. Et Rimbaud, c'est un autre type d'aventure. Lui, c'est vraiment... il suffit de lire ses lettres pour voir que la seule chose qui l'intéressait en Orient, c'était l'argent, finalement. C'est une autre histoire. Et une espèce de fuite pour se retrouver un métier, quelque chose à faire, et avancer un peu dans son existence. Après, on peut essayer de voir un peu des différents types de rapports à... non seulement à la folie, mais aussi à l'Orient et à l'orientalisme d'une façon générale.
Alors, ce récit a aussi, pour moi en tout cas, une véritable portée politique presque. Il peut être une clé d'interprétation pour l'actualité, et essayer en fait de saisir cette actualité à la racine. Donc on passe de la Syrie comme terre foulée par Chopin, à la Syrie d'aujourd'hui ensanglantée, et... vous faites allusion à la question de l'accueil de l'étranger, et vous dites finalement que ces deux problèmes sont à peu près les mêmes, il se résume à la question de savoir si on est prêt à accepter l'autre en soi qui peut nous sortir de nous et nous vivifier. Et finalement, paradoxalement, en n'acceptant pas le mélange, on finit par perdre qui nous sommes. Ainsi, je vous dis quelque chose qui me fait beaucoup rire, c'est les barbus barbares de l'État islamique, en voulant se crisper sur la pureté des origines, sont finalement des Walt Disney orientaux, puisqu'ils médiatisent en fait leurs exécutions. Donc en fait, on n'échappe pas à ce mélange, c'est ça que vous nous dites.
Ah, bien sûr, effectivement. Ouais, l'idée, c'est tout à fait ça. C'est qu'on n'a pas. C'est impossible de. Si effectivement il y a un geste politique dans Boussole, c'est celui-là, c'est montrer que finalement. Voir Orient et Occident comme séparés par des frontières, où on aurait d'un côté ceci, de l'autre cela, c'est une absurdité. Il faut bien voir que l'un fait partie de l'autre, et c'est depuis très très longtemps maintenant. Ce sont des sociétés qui ont échangé de tout temps, et encore plus aujourd'hui. Et c'est presque impossible de mettre une frontière, qu'elle soit géographique, historique, culturelle. Non, parce que les frontières sont multiples, très nombreuses, et en plus elles se déplacent. Et donc forcément, tout ça crée une grande mixité finalement entre l'un et l'autre, avec des points de passage, des endroits de communication, des récits de transmission qui sont tous assez merveilleux d'ailleurs.
Mais du coup la question est pourquoi cette ignorance de qui nous sommes, pourquoi croire à la pureté, au nationalisme plutôt qu'au mélange?
Je pense que c'est aussi une question de facilité, c'est-à-dire que c'est simple et rassurant de se construire sur un ensemble, sur un nom. Le nom France, le nom Europe, le nom Bretagne, le nom d'un ensemble auquel on peut facilement s'identifier et voir et voir un peu comment il fonctionne. Donc ça c'est même si finalement on sait très bien que effectivement France, alors oui, ça a des frontières internationales garanties par le droit, comme ça c'est facile à définir. Après, qu'est-ce que ça recoupe exactement? C'est une autre paire de manches. Et même les langues se mélangent, il y a différentes façons de les parler. Et on parle énormément de langues en France et pas uniquement le français. Et puis quel français? Enfin bref. On se rend compte quand on se penche sur la question qu'évidemment définir l'identité de la France, c'est pas simple du tout. Et pourtant le nom apparaît presque comme une évidence. C'est la même chose si on prend Orient, Oriental, Ottoman, Turc, Syrien, c'était des mots d'abord dont le sens a beaucoup changé avec le temps. Et qui était aussi autrefois des évidences. Pourtant, là aussi, c'est pareil. Quand on pense à la Bosnie, par exemple, qui est un des pays musulmans d'Europe, je pense que ça n'irait à personne l'idée de nier le fait que la Bosnie est en Europe. Pourtant, c'est peuplé par des Slaves musulmans issus de l'Empire ottoman. Toutes ces choses sont compliquées. Voilà, l'histoire de l'Espagne, par exemple, montre qu'on peut être à la fois et pendant longtemps musulman, ensuite ne plus l'être. Enfin, voilà, toutes ces choses sont très très mouvantes et laissent quand même des traces dans l'imaginaire.
Alors, pour rester sur ces questions d'actualité, vous faites des descriptions vraiment magnifiques de Palmyre, qui rend toute sa vitalité, toutes ses influences, justement, comme on vient de dire. Alors est-ce que c'est un désir de rendre le vrai sens à cette ville, en fait, à ces régions du Moyen-Orient qui ne sont aujourd'hui que des objets médiatiques finalement? Est-ce que vous voulez en quelque sorte concurrencer un peu le discours médiatique qui ne s'attaque pas à la racine en fait, mais qui ne fait qu'ajouter des images?
C'est pas concurrencer, l'idée c'est plutôt de montrer autre chose justement, une autre façon de voir, mais effectivement ça a à voir avec ça, et c'est quelque chose d'extraordinairement triste aujourd'hui quand on regarde la télévision par exemple, ce que heureusement je fais rarement parce que c'est vraiment déprimant. On a cette espèce de discours, on a des images d'abord d'une catastrophe, ensuite un bandeau qui vous résume en deux ou trois mots ce que vous êtes en train de voir, et en dessous les cours de la bourse et les résultats du tennis, quoi. Et malheureusement, ça c'est en train de devenir presque un modèle de pensée, c'est-à-dire survoler les choses, regarder passivement des images et des mots se mélanger sans comprendre réellement ce qui s'y passe. Et aujourd'hui, le livre, la littérature, mais aussi, enfin le roman, mais aussi les essais, et une certaine forme de journalisme écrit, sont justement de plus en plus nécessaires pour voir au-delà de cette espèce de galimatia informatique et télévisuelle où c'est impossible de comprendre. C'est-à-dire que le vrai moment de la pensée, maintenant, il est dans une plus longue durée, dans les livres, bien sûr, mais aussi dans certains journaux, dans certains documentaires de cinéma ou de télévision. Et donc ça, c'est malheureusement, et c'est très triste, Boussole cherche, voilà, à essayer de voir un peu au-delà des flammes immédiates, ce qu'il y a aussi au-delà et derrière la violence qu'on nous montre à la télévision.
Ça cherche vraiment à prendre une hauteur culturelle et historique.
Oui, et puis même aller un peu autrement, voilà, d'une façon un peu par la bande, pas forcément. Bien sûr, évidemment, on va pas nier ce qui se passe en Syrie en ce moment. Mais on l'aperçoit derrière en toile de fond dans le livre, mais ça devient jamais l'objet immédiat et principal.
Alors Mathieu Sénard, ce sera ma dernière question.
Je vous en prie.
Vous savez que vous êtes au micro de la radio de l'Ouest de Lyon. Vous êtes parfois très acerbe et très critique vis-à-vis du monde universitaire.
Oui.
Que vous connaissez bien parce que vous avez rédigé une thèse. Vous relatez le caractère vain, parfois malsain de ce monde. Vous n'avez pas continué, en tout cas académiquement, à la recherche. Et pourtant, à bien des égards, le livre entier est un travail d'érudition. Tout cela s'annonce dès les premières pages, par l'intermédiaire de la préface à la thèse de Sarah sur Hedayat. Préface qui serait d'ailleurs une bonne introduction au roman lui-même.
C'est pour ça qu'elle est là, d'ailleurs.
Oui. Et ma question est la suivante, finalement, dans ce livre, est-ce que vous avez renoncé au monde universitaire ou est-ce que vous créez une nouvelle école qui utilise la fiction en mélangeant justement fiction et érudition
Est-ce que j'ai renoncé à l'universitaire? Je ne sais pas. J'ai enseigné à l'université. C'est vrai que, même si je me moque, parce que, vous savez, il y a, chez les universitaires, ce que vous deviendrez certainement, il y a quelque chose d'absolument passionnant et qui est un motif aussi de... il fait les rentrées drôles, c'est que ce sont à la fois les gens les plus savants, les plus doctes du monde, et en même temps aussi souvent les plus mesquins. Alors qu'ils arrivent à mélanger les deux à la fois, et c'est ce qui les rend parfois si comiques. Mais il y a même un genre, carrément, le comique universitaire est devenu un genre en soi, créé, si on peut dire, par l'universitaire anglais David Lodge, qui a écrit des choses absolument désopilantes sur ses collègues. Mais peut-être au-delà de l'humour, je pense que justement, si moi je me sentais pas à l'aise dans le, non pas dans l'enseignement, au contraire, mais dans la rédaction, on va dire, en tout cas la façon de décrire à l'université, c'est parce que je voulais plus de liberté dans le ton, justement, dans la forme, dans la possibilité de développer une écriture qui serait personnelle, tout en manipulant des objets qui sont effectivement des objets de savoir, des objets de recherche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai réussi à trouver un peu cet équilibre qui est que, à la fois, je continue à faire de la recherche puisque je fais des bibliographies, je lis des archives, je lis des historiens, des linguistes et des spécialistes de littérature comparée. Mais en même temps, j'ai une grande liberté. Voilà. Et donc ça, effectivement, c'est peut-être le parcours que j'ai suivi ces dernières années.
Et vous arrivez sûrement aussi à mêler tout ça à la traduction, donc c'est l'achèvement.
La traduction, malheureusement, j'en fais plus beaucoup, mais oui, j'ai traduit. D'ailleurs, j'ai commencé à traduire, en fait, à l'université pour des travaux universitaires. Mmh. Et après, j'ai fait des traductions un peu plus littéraires. J'ai traduit deux ou trois livres, mais ça, par contre, ça fait un moment que je fais plus. Je traduis dans mes livres, justement.
Et voilà, c'est ce que je veux dire.
Je me fais plaisir. Et l'avantage aussi, c'est que du coup, je peux traduire ce qui me fait vraiment plaisir. Par exemple, j'ai traduit Pessoa, j'ai traduit Paul Celan, c'était très bien, j'étais très content.
Mathieu Senner, je vous remercie à nouveau d'avoir répondu à nos questions.
Non, c'est moi qui vous remercie.
Nous qui sommes aux portes de l'Orient comme jamais, nous qui avons l'Orient à nos portes, votre ouvrage s'offre comme une boussole qui nous invite à la rencontre et à l'échange. Merci beaucoup.
Merci à vous, puis Lyon, c'est l'Est de la France.
Ouais.
C'est l'Orient, dans l'Orient français.